La société de consommation, ses mythes, ses structures, Jean Baudrillard. Première partie, la liturgie formelle de l'objet. Il y a aujourd'hui tout autour de nous une espèce d'évidence fantastique de la consommation et de l'abondance, constituée par la multiplication des objets, des services, des biens matériels, et qui constitue une sorte de mutation fondamentale dans l'écologie de l'espèce humaine. À proprement parler, les hommes de l'opulence ne sont plus tellement environnés, comme ils le furent de tout temps, par d'autres hommes que par des objets. Leur commerce quotidien n'est plus tellement celui de leurs semblables que, statistiquement, selon une courbe croissante, la réception et la manipulation de biens et de messages, depuis l'organisation domestique très complexe de ces dizaines d'esclaves techniques jusqu'au mobilier urbain et toutes les machineries matérielles des communications et des activités professionnelles, jusqu'au spectacle permanent de la célébration de l'objet dans la publicité et les centaines de messages journaliers venus des masses médias, du fourmillement mineur des gadgets vaguement obsessionnels jusqu'au psychodrame symbolique qu'alimentent les objets nocturnes qui viennent nous hanter jusque dans nos rêves. Les concepts d'environnement, d'ambiance, n'ont sans doute une telle vogue que nous vivons moins, au fond, à proximité d'autres hommes, dans leur présence et dans leur discours, que sous le regard muet d'objets obéissants et hallucinants qui nous répètent toujours le même discours, celui de notre puissance médusée, de notre abondance virtuelle, de notre absence les uns aux autres. Comme l'enfant loup devient loup à force de vivre avec eux, ainsi nous devenons lentement fonctionnels nous aussi. Nous vivons le temps des objets. Je veux dire que nous vivons à leur rythme et selon leur succession incessante. C'est nous qui les regardons aujourd'hui naître, s'accomplir et mourir alors que, dans toutes les civilisations antérieures, c'étaient les objets, instruments ou monuments pérennes qui survivaient aux générations d'hommes. Les objets ne constituent ni une flore ni une faune. Pourtant, ils donnent bien l'impression d'une végétation proliférante et d'une jungle où le nouvel homme sauvage des temps modernes a du mal à retrouver les réflexes de la civilisation. Cette faune et cette flore que l'homme a produite et qui reviennent l'encercler et l'investir comme dans les mauvais romans de science-fiction, il faut tenter de les décrire rapidement, tels que nous les voyons et les vivons, en n'oubliant jamais, dans leur faste et leur profusion, qu'elles sont le produit d'une activité humaine, et qu'elles sont dominées non par des lois écologiques naturelles, mais par la loi de la valeur d'échange. Ouvrez les guillemets. Dans les rues les plus animées de Londres, les magasins se serrent les uns contre les autres et derrière leurs yeux de verre sans regard s'étalent toutes les richesses de l'univers. Châle indien, revolver américain, porcelaine chinoise, corset de Paris, fourrure de Russie et épices des tropiques, mais tous ces articles qui ont vu tant de pays portent au front de fatales étiquettes blanchâtres où sont gravés des chiffres arabes suivis de laconiques caractères. L.S.D. Livre sterling, shilling, pence. Telle est l'image qu'offre la marchandise en apparaissant dans la circulation. Marx, contribution à la critique de l'économie politique. La profusion et la panoplie. L'amoncellement. La profusion est évidemment le trait descriptif le plus frappant. Les grands magasins, avec leur luxuriance de conserves, de vêtements, de biens alimentaires et de confections, sont comme le paysage primaire et le lieu géométrique de l'abondance. Mais toutes les rues, avec leurs vitrines encombrées, ruisselantes, le bien le moins rare étant la lumière, sans qui la marchandise ne serait que ce qu'elle est, leurs étalages de charcuterie, toute la fête alimentaire et vestimentaire qu'elles mettent en scène, tout stimule la salivation féerique. Il y a quelque chose de plus dans l'amoncellement que la somme des produits, l'évidence du surplus, la négation magique et définitive de la rareté, la présomption maternelle et luxueuse du pays de Cocagne. Nos marchés, nos artères commerciales, nos super prix uniques miment ainsi une nature retrouvée, prodigieusement féconde. Ce sont nos vallées de Canaan, où coulent, en fait de lait et de miel, les flots de néon sur le ketchup et le plastique, mais qu'importe. L'espérance violente qu'il y en ait non pas assez, mais trop et trop pour tout le monde, est là. Vous emportez la pyramide croulante d'huîtres, de viande, de poire ou d'asperges en boîte en achetant une parcelle. Vous achetez la partie pour le tout, et ce discours métonymique répétitif de la matière consommable, de la marchandise, redevient par une métaphore collective, grâce à son excès même, l'image du don, de la prodigalité inépuisable et spectaculaire qui est celle de la fête. Au-delà de l'entassement, qui est la forme la plus rudimentaire mais la plus prégnante de l'abondance, les objets s'organisent en panoplie ou en collection. Presque tous les magasins d'habillement, d'électroménager, etc. offrent une gamme d'objets différenciés qui s'appellent, se répondent et se déclinent les uns les autres. La vitrine de l'antiquaire est le modèle aristocratique, luxueux, de ces ensembles qui n'évoquent plus tellement une surabondance de substances qu'un éventail d'objets sélectionnés et complémentaires, livrés au choix, mais aussi à la réaction psychologique en chaîne du consommateur qui les parcourt, les inventorie, les saisit comme catégorie totale. Peu d'objets sont aujourd'hui offerts seuls, sans un contexte d'objets qui les parle. Et la relation du consommateur à l'objet en est changée. Il ne se réfère plus à tel ou tel objet dans son utilité spécifique, mais à un ensemble d'objets dans sa signification totale. Machine à laver, réfrigérateur, machine à laver la vaisselle, etc. ont un autre sens à eux tous que chacun d'entre eux comme ustensile. La vitrine, l'annonce publicitaire, la firme productrice et la marque, qui joue ici un rôle essentiel, en impose la vision cohérente, collective comme d'un tout presque indissociable, comme d'une chaîne qui est alors non plus un enchaînement de simples objets, mais un enchaînement de signifiants, dans la mesure où ils se signifient l'un l'autre comme super objet plus complexe et entraînant le consommateur dans une série de motivations plus complexes. On voit que les objets ne s'offrent jamais à la consommation dans un désordre absolu. Dans certains cas, ils peuvent mimer le désordre pour mieux séduire, mais toujours, ils s'arrangent pour frayer des voies directrices, pour orienter l'impulsion d'achat dans des réseaux d'objets, pour la séduire et la porter selon sa propre logique jusqu'à l'investissement maximal et jusqu'aux limites de son potentiel économique. Les vêtements, les appareils, les produits de toilette constituent ainsi des filières d'objets qui suscitent chez le consommateur des contraintes d'inertie. Il ira logiquement d'un objet à l'autre. Il sera pris dans un calcul d'objets, ce qui est tout différent du vertige d'achat et d'appropriation qui naît de la profusion même des marchandises. Le drugstore. La synthèse de la profusion et du calcul, c'est le drugstore. Le drugstore, ou les nouveaux centres commerciaux, réalise la synthèse des activités consommatrices, dont la moindre n'est pas le shopping, le flirt avec les objets, l'errance ludique et les possibilités combinatoires. À ce titre, le drugstore est plus spécifique de la consommation moderne que les grands magasins, où la centralisation quantitative des produits laisse moins de marge à l'exploration ludique, où la juxtaposition des rayons des produits impose un cheminement plus utilitaire et qui garde quelque chose de l'époque où ils sont nés, qui fut celle de l'ascension de larges classes aux biens de consommation courante. Le drugstore, lui, a un tout autre sens. Il ne juxtapose pas des catégories de marchandises, il pratique l'amalgame des signes, de toutes les catégories de biens considérés comme champ partiel d'une totalité consommatrice de signes. Le centre culturel y devient partie intégrante du centre commercial. N'entendons pas que la culture y est prostituée, c'est trop simple. Elle y est culturalisée. Simultanément, la marchandise, vêtements, épicerie, restaurant, etc., y est culturalisée elle aussi, car transformée en substance ludique et distinctive, en accessoire de luxe, en élément parmi d'autres de la panoplie générale des biens de consommation. Ouvrez les guillemets, un nouvel art de vivre, une nouvelle manière de vivre, disent les publicités, la quotidienneté dans le vent, pouvoir faire du shopping agréable, en un même endroit climatisé, acheter en une seule fois les provisions alimentaires, les objets destinés à l'appartement et à la maison de campagne, les vêtements, les fleurs, le dernier roman ou le dernier gadget, tandis que maris et enfants regardent un film, dîner ensemble sur place, etc. Fermez les guillemets. Café, cinéma, librairie, auditorium, colifichets, vêtements et bien d'autres choses encore dans les centres commerciaux. Le drugstore peut tout ressaisir sur le mode kaléidoscopique. Si le grand magasin donne le spectacle forain de la marchandise, le drugstore, lui, offre le récital subtil de la consommation, dont tout l'art, précisément, consiste à jouer sur l'ambiguïté du signe dans les objets et à sublimer leur statut d'utilité et de marchandise en un jeu d'ambiance. néoculture généralisée où il n'y a plus de différence entre une épicerie fine et une galerie de peinture, entre Playboy et un traité de paléontologie. Le drugstore va se moderniser jusqu'à offrir de la matière grise. Ouvrez les guillemets, vendre des produits ne nous intéresse pas en soi, nous voulons y mettre un peu de matière grise. 3 étages, un bar, une piste de danse et des points de vente. Colifichets, disques, livres de poche, livres de tête, un peu de tout. Mais on ne cherche pas à flatter la clientèle, on lui propose vraiment quelque chose. Un laboratoire de langue fonctionne au 2e étage. Parmi les disques et les bouquins, on trouve les grands courants qui réveillent notre société. Musique de recherche, volume qui explique l'époque. C'est la matière grise qui accompagne les produits. Un drugstore donc, mais nouveau style, avec quelque chose en plus, peut-être un peu d'intelligence et un peu de chaleur humaine. Fermez les guillemets. Le drugstore peut devenir une ville entière, c'est par l'idée. Avec son shopping center géant, où les arts et les loisirs se mêlent à la vie quotidienne, où chaque groupe de résidence rayonne autour de sa piscine club qui en devient le pôle d'attraction. Église en rond, cours de tennis, c'est la moindre des choses, boutique élégante, bibliothèque. La moindre station de sport d'hiver reprend ce modèle universaliste du drugstore. Toutes les activités y sont résumées, systématiquement combinées et centrées autour du concept fondamental d'ambiance. Ainsi, Flaine la Prodigue vous offre tout en même temps une existence totale, polyvalente, combinatoire. Ouvrez les guillemets, notre Mont Blanc, nos forêts d'épicéas, nos pistes olympiques, notre plateau pour enfants, notre architecture ciselée, taillée, polie comme une œuvre d'art, la pureté de l'air que nous respirons, l'ambiance raffinée de notre forum, à l'instar des cités méditerranéennes, etc. C'est là que s'épanouit la vie autour des pistes de ski. Café, restaurant, boutique, patinoire, nightclub, cinéma, centre de culture et de distraction sont réunis sur le forum pour vous offrir une vie hors ski particulièrement riche et variée. Notre circuit intérieur de télévision, notre avenir à l'échelle humaine. Bientôt, nous serons classés monuments d'art par le ministère des Affaires culturelles. Fermez les guillemets. Nous sommes au point où la consommation saisit toute la vie, où toutes les activités s'enchaînent sur le même mode combinatoire, où le chenal des satisfactions est tracé d'avance heure par heure, où l'environnement est total, totalement climatisé, aménagé, culturalisé. Dans la phénoménologie de la consommation, cette climatisation générale de la vie, des biens, des objets, des services, des conduites et des relations sociales représente le stade accompli, consommé, dans une évolution qui va de l'abondance pure et simple, à travers les réseaux articulés d'objets, jusqu'au conditionnement total des actes et du temps, jusqu'au réseau d'ambiance systématique inscrit dans des cités du futur que sont les drugstores, les parlideux ou les aéroports modernes. Parlideux. Ouvrez les guillemets. Le plus grand centre commercial d'Europe. Le Printemps, le BHV, Dior, Prise Unique, Lanvin, Franck et Fils, Eliard, deux cinémas, un drugstore, un supermarché, Souma, 100 autres boutiques groupées en un seul point. Fermez les guillemets. Pour le choix des commerces, de l'épicerie à la haute couture, 2 impératifs. Le dynamisme commercial et le sens de l'esthétique. Le fameux slogan « La laideur se vend mal » est ici dépassé. Il pourrait être remplacé par « La beauté du cadre est la première condition du bonheur de vivre ». Structure à 2 étages, organisée autour du mail central, artère principale et voie triomphale à 2 niveaux. Réconciliation du petit et du grand commerce. Réconciliation du rythme moderne et de l'antique flânerie. C'est le confort jamais connu de flâner à pied entre des magasins offrant leur tentation de plein pied, sans même l'écran d'une vitrine. Dans le mail, à la fois rue de la Paix et Champs-Élysées, agrémenté de jeux d'eau, d'arbres minéraux, de kiosques et de bancs, totalement libéré des saisons et des intempéries, un système de climatisation exceptionnel, ayant nécessité 13 kilomètres de gaines de conditionnement d'air, y fait régner un printemps perpétuel. Non seulement on peut tout y acheter, d'une paire de lacets à un billet d'avion, y trouver compagnie d'assurance et cinéma, banque ou service médical, club de bridge et exposition d'art, mais encore, on n'y est pas esclave de l'heure. Le mail, comme toute rue, est accessible 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. Naturellement, le centre a instauré, pour qui veut, le mode le plus moderne de paiement, la carte de crédit. Elle libère des chèques, de l'argent liquide, et même des fins de mois difficiles. Désormais, pour payer, vous montrez votre carte et signez la facture. C'est tout. Chaque mois, vous recevez un relevé de compte que vous pouvez payer en une seule fois ou par mensualité. Dans ce mariage du confort, de la beauté, de l'efficacité, les Parisiens découvrent les conditions matérielles du bonheur que nos villes anarchiques leur refusaient. Nous sommes là au foyer de la consommation comme organisation totale de la quotidienneté, homogénéisation totale où tout est ressaisi et dépassé dans la facilité, la translucidité d'un bonheur abstrait défini par la seule résolution des tentations. Le drugstore élargi aux dimensions du centre commercial et de la ville future, c'est le sublimé de toute vie réelle, de toute vie sociale objective où viennent s'abolir non seulement le travail et l'argent, mais les saisons, lointains vestiges d'un cycle enfin homogénéisé lui aussi. Travail, loisirs, nature, culture, tout cela, jadis dispersé et générateur d'angoisse et de complexité dans la vie réelle, dans nos villes anarchiques et archaïques, toutes ces activités déchirées et plus ou moins irréductibles les unes aux autres, tout cela enfin mixé, malaxé, climatisé, homogénéisé, dans le même travelling d'un shopping perpétuel, tout cela enfin asexué dans la même ambiance hermaphrodite de la mode. Tout cela enfin digéré et rendu à la même matière fécale homogène, bien sûr sous le signe précisément de la disparition de l'argent liquide, symbole encore trop visible de la fécalité réelle de la vie réelle et des contradictions économiques et sociales qui la hantaient jadis. Tout cela est fini. La fécalité contrôlée, lubrifiée, consommée est désormais passée dans la chose, partout diffuse dans l'indistinction des choses et des rapports sociaux. Comme le panthéon romain venait syncrétiquement coexister les dieux de tous les pays, dans un immense digeste, ainsi, dans notre super shopping center, qui est notre panthéon à nous, notre pandémonium, viennent se réunir tous les dieux ou les démons de la consommation, c'est-à-dire toutes les activités, tous les travaux, tous les conflits et toutes les saisons abolies dans la même abstraction. Dans la substance de la vie ainsi unifiée, dans ce digeste universel, il ne peut plus y avoir de sens. Ce qui faisait le travail du rêve, le travail poétique, le travail du sens, c'est-à-dire les grands schèmes du déplacement et de la condensation, les grandes figures de la métaphore et de la contradiction, qui reposent sur l'articulation vivante d'éléments distincts, n'est plus possible. Seul règne l'éternelle substitution d'éléments homogènes. Plus de fonctions symboliques, une éternelle combinatoire d'ambiances dans un printemps perpétuel. Le statut miraculeux de la consommation. Les indigènes mélanésiens étaient ravis par les avions qui passaient dans le ciel. Mais jamais ces objets ne descendaient vers eux. Les Blancs, eux, réussissaient à les capter. Et cela parce qu'ils disposaient au sol, sur certains espaces, d'objets semblables qui attiraient les avions volants. Sur quoi les indigènes se mirent à construire un simulacre d'avion avec des branches et des lianes, délimitèrent un terrain qu'ils éclairaient soigneusement de nuit et se mirent à attendre patiemment que les vrais avions s'y posent. Sans taxer de primitivisme, et pourquoi pas, les chasseurs-collecteurs anthropoïdes errant de nos jours dans les jungles des villes, on pourrait voir là un apologue sur la société de consommation. Le miraculé de la consommation lui aussi met en place tout un dispositif d'objets simulacres, de signes caractéristiques du bonheur, et attend ensuite, désespérément, dirait un moraliste, que le bonheur se pose. Il n'est pas question de voir là un principe d'analyse. Il s'agit simplement de la mentalité consommatrice privée et collective. Mais à ce niveau assez superficiel, on peut risquer cette comparaison. C'est une pensée magique qui régit la consommation. C'est une mentalité miraculeuse qui régit la vie quotidienne. C'est une mentalité de primitif, au sens où on la définit comme fondée sur la croyance en la toute-puissance des pensées. Ici, c'est la croyance en la toute-puissance des signes. L'opulence, l'affluence n'est en effet que l'accumulation des signes du bonheur. Les satisfactions que confèrent les objets, eux-mêmes, sont l'équivalent des avions simulacres, des modèles réduits de mélanésiens, c'est-à-dire le reflet anticipé de la grande satisfaction virtuelle, de l'opulence totale, de la jubilation dernière des miraculés définitifs dont l'espoir fou alimente la banalité quotidienne. Ces moindres satisfactions ne sont encore que des pratiques d'exorcisme, des moyens de capter, de conjurer le bien-être total, la béatitude. Dans la pratique quotidienne, les bienfaits de la consommation ne sont pas vécus comme résultant d'un travail ou d'un processus de production. Ils sont vécus comme miracles. Il y a certes une différence entre l'indigène mélanésien et le téléspectateur qui s'assoit devant son récepteur, tourne le bouton et attend que les images du monde entier descendent vers lui. C'est que les images obéissent généralement, tandis que les avions ne condescendent jamais à se poser sur un jonction magique. Mais ce succès technique ne suffit pas à démontrer que notre comportement soit d'ordre réel et celui des indigènes d'ordre imaginaire. Car la même économie psychique fait que, d'une part, la confiance magique des indigènes n'est jamais détruite. Si ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et que d'autre part, le miracle de la télé est perpétuellement réalisé sans cesser d'être un miracle. Cela par la grâce de la technique qui efface pour la conscience du consommateur le principe même de réalité sociale, le long processus social de production qui mène à la consommation des images. Si bien que le téléspectateur, comme l'indigène, vit l'appropriation comme une captation sur un mode d'efficacité miraculeuse. Le mythe du cargo. Les biens de consommation se proposent ainsi comme de la puissance captée, non comme des produits travaillés. Et plus généralement, la profusion des biens est ressentie, une fois coupée de ses déterminations objectives, comme une grâce de nature, comme une manne et un bienfait du ciel. Les Mélanésiens, encore eux, ont développé ainsi au contact des Blancs un culte messianique, celui du cargo. Les Blancs vivent dans la profusion, eux n'ont rien. C'est parce que les Blancs savent capter ou détourner les marchandises qui leur sont destinées à eux, les Noirs, par leurs ancêtres retirés aux confins du monde. Un jour, une fois mise en échec la magie des Blancs, leurs ancêtres viendront avec la cargaison miraculeuse et ils ne connaîtront plus jamais le besoin. Ainsi, les peuples sous-développés vivent-ils l'aide occidentale comme quelque chose d'attendu, de naturel, et qui leur était dû depuis longtemps, comme une médecine magique sans rapport avec l'histoire, la technique, le progrès continu et le marché mondial. Mais si on y regarde de plus près, les miraculés occidentaux de la croissance ne se comportent-ils pas collectivement de la même façon? La masse des consommateurs ne vit-elle pas la profusion comme un effet de nature, environnée qu'elle est par les fantasmes du pays de Cocagne et persuadée par la litanie publicitaire que tout lui sera donné d'avance, et qu'elle a sur la profusion un droit légitime et inaliénable? La bonne foi dans la consommation est un élément nouveau. Les nouvelles générations sont désormais des héritières. Elles héritent non seulement des biens, mais du droit naturel à l'abondance. On revit en Occident le mythe du cargo tandis qu'il décline en Mélanésie. Car même si l'abondance se fait quotidienne et banale, elle reste vécue comme miracle quotidien, dans la mesure où elle apparaît non comme produit et arraché, conquise au terme d'un effort historique et social, mais comme dispensée par une instance mythologique bénéfique dont nous sommes les héritiers légitimes, la technique, le progrès, la croissance, etc. Cela ne veut pas dire que nos sociétés ne soient d'abord, objectivement et de façon décisive, une société de production, un ordre de production, donc le lieu d'une stratégie économique et politique. Mais cela veut dire que s'y enchevêtre un ordre de la consommation, qui est un ordre de manipulation des signes. Dans cette mesure, un parallèle, aventureux sans doute, peut être tracé avec la pensée magique, car l'un et l'autre vivent de signes et à l'abri des signes. De plus en plus d'aspects fondamentaux de nos sociétés contemporaines ressortissent à une logique des significations, à une analyse des codes et des systèmes symboliques. Elles n'en sont pas pour autant des sociétés primitives, et le problème de la production historique, de ses significations et de ses codes reste entier. Cette analyse devant s'articuler sur celle du procès de la production matérielle et technique comme son prolongement théorique. Le vertige consommé de la catastrophe. La pratique des signes est toujours ambivalente. Elle a toujours pour fonction de conjurer au double sens du terme, de faire surgir pour capter par des signes, les forces, le réel, le bonheur, etc., et d'évoquer quelque chose pour le nier et le refouler. On sait que la pensée magique dans ces mythes vise à conjurer le changement et l'histoire. D'une certaine façon, la consommation généralisée d'images, de faits, d'informations, vise elle aussi à conjurer le réel dans les signes du réel, à conjurer l'histoire dans les signes du changement, etc. Le réel, nous le consommons par anticipation ou rétrospectivement, de toute façon à distance, distance qui est celle du signe. Exemple. Lorsque Paris Match nous a montré les barbousses chargées de la protection du général s'entraînant à la mitraillette dans les caves de la préfecture. Cette image n'est pas lue comme information, c'est-à-dire renvoyant au contexte politique et à son élucidation. Pour chacun de nous, elle charriait la tentation d'un attentat superbe, d'un prodigieux événement de violence. L'attentat aura lieu, il va avoir lieu, l'image en est précursion et jouissance anticipée, toutes les perversités s'accomplissent. C'est là le même effet inverse que l'attente de la profusion miraculeuse dans le cargo. Le cargo ou la catastrophe, c'est toujours un effet de vertige consommé. On peut dire, c'est vrai, que ce sont nos fantasmes alors qui viennent se signifier dans l'image et s'y consommer. Mais cet aspect psychologique nous intéresse moins que ce qui vient à l'image pour y être consommé et refoulé à la fois. Le monde réel, l'événement, l'histoire. Ce qui caractérise la société de consommation, c'est l'universalité du fait divers dans la communication de masse. Toute l'information politique, historique, culturelle est reçue sous la même forme, à la fois anodine et miraculeuse, du fait divers. Elle est tout entière actualisée, c'est-à-dire dramatisée sur le mode spectaculaire, et tout entière inactualisée, c'est-à-dire distancée par le médium de la consommation et réduite à des signes. Le fait divers n'est donc pas une catégorie parmi d'autres, mais LA catégorie cardinale de notre pensée magique, de notre mythologie. Cette mythologie s'arc-boute sur l'exigence d'autant plus vorace de réalité, de vérité, d'objectivité. Partout, c'est le cinéma vérité, le reportage en direct, le flash, le photoshop, le témoignage document, etc. Partout, ce qui est cherché, c'est le cœur de l'événement, le cœur de la bagarre, le in vivo, le face-à-face, le vertige d'une présence totale à l'événement, le grand frisson du vécu, c'est-à-dire encore une fois le miracle, puisque la vérité de chaque chose vue, télévisée, magnétisée sur bande, c'est précisément que je n'y étais pas. Mais c'est le plus vrai que le vrai qui compte, autrement dit le fait d'y être sans y être, autrement dit encore le fantasme. Ce que nous donnent les communications de masse, ce n'est pas la réalité, c'est le vertige de la réalité. Ou encore, sans jeu de mots, une réalité sans vertige, car le cœur de l'Amazonie, le cœur du réel, le cœur de la passion, le cœur de la guerre, ce cœur qui est le lieu géométrique des communications de masse et qui en fait la sentimentalité vertigineuse, c'est précisément là où il ne se passe rien. C'est le signe allégorique de la passion et de l'événement, et les signes sont sécurisants. Nous vivons ainsi à l'abri des signes et dans la dénégation du réel. Sécurité miraculeuse. Quand nous regardons les images du monde, qui distinguera cette brève irruption de la réalité du plaisir profond de n'y être pas? L'image, le signe, le message, tout ceci que nous consommons, c'est notre quiétude scellée par la distance au monde et que berce, plus qu'elle ne la compromet, l'allusion même violente au réel. Le contenu des messages, les signifiés des signes sont largement indifférents. Nous n'y sommes pas engagés et les médias ne nous renvoient pas au monde. Ils nous donnent à consommer les signes en tant que signes, attestés cependant par la caution du réel. C'est ici qu'on peut définir la praxis de la consommation. La relation du consommateur au monde réel, à la politique, à l'histoire, à la culture, n'est pas celle de l'intérêt, de l'investissement, de la responsabilité engagée. Ce n'est pas non plus celle de l'indifférence totale, c'est celle de la curiosité. Selon le même schéma, on peut dire que la dimension de la consommation telle que nous l'avons définie ici, ce n'est pas celle de la connaissance du monde, mais non plus celle de l'ignorance totale, c'est celle de la méconnaissance. Curiosité et méconnaissance désignent un seul et même comportement d'ensemble vis-à-vis du réel. Comportement généralisé et systématisé par la pratique des communications de masse et donc caractéristique de notre société de consommation. C'est la dénégation du réel sur la base d'une appréhension avide et multipliée de ses signes. Par la même occasion, nous pouvons définir le lieu de la consommation, c'est la vie quotidienne. Cette dernière n'est pas seulement la somme des faits et des gestes quotidiens, la dimension de la banalité et de la répétition, c'est un système d'interprétation. La quotidienneté, c'est la dissociation d'une praxis totale en une sphère transcendante, autonome et abstraite, du politique, du social, du culturel, et en la sphère immanente, close et abstraite, du privé. Travail, loisirs, famille, relations, L'individu réorganise tout cela sur un mode involutif, en deçà du monde et de l'histoire, dans un système cohérent fondé sur la clôture du privé, la liberté formelle de l'individu, l'appropriation sécurisante de l'environnement et la méconnaissance. La quotidienneté est au regard objectif de la totalité, pauvre et résiduelle, mais elle est par ailleurs triomphante et euphorique dans son effort d'autonomisation totale et de réinterprétation du monde à usage interne. C'est là que se situe la collusion profonde, organique, entre la sphère de la quotidienneté privée et les communications de masse. La quotidienneté comme clôture serait insupportable sans le simulacre du monde, sans l'alibi d'une participation au monde. Il lui faut s'alimenter des images et des signes multipliés de cette transcendance. Sa quiétude a besoin, nous l'avons vu, du vertige de la réalité et de l'histoire. Sa quiétude a besoin, pour s'exalter, de perpétuelles violences consommées. C'est son obscénité à elle. Elle est friande d'événements et de violences, pourvu que celle-ci lui soit servie chambrée. Caricaturalement, c'est le téléspectateur relaxé devant les images de la guerre du Vietnam. L'image de la télé, comme une fenêtre inverse, donne d'abord sur une chambre, et dans cette chambre, l'extériorité cruelle du monde se fait intime et chaleureuse, d'une chaleur perverse. À ce niveau vécu, la consommation fait de l'exclusion maximale du monde, réel, social, historique, l'indice maximal de sécurité. Elle vise à ce bonheur par défaut qu'est la résolution des tensions, mais elle se heurte à une contradiction, celle entre la passivité qu'implique ce nouveau système de valeurs et les normes d'une morale sociale qui, pour l'essentiel, reste celle du volontarisme, de l'action, de l'efficacité et du sacrifice. D'où l'intense culpabilisation qui s'attache à ce nouveau style de conduite hédoniste et l'urgence clairement définie par les stratégies du désir de déculpabiliser la passivité. Pour des millions de gens sans histoire et heureux de l'être, il faut déculpabiliser la passivité. Et c'est ici qu'intervient la dramatisation spectaculaire par les masses médias, le fait divers, catastrophe comme catégorie généralisée de tous les messages. Pour que soit résolue cette contradiction entre morale puritaine et morale hédoniste, il faut que cette quiétude de la sphère privée apparaisse comme une valeur arrachée, constamment menacée, environnée par un destin de catastrophe. Il faut la violence et l'inhumanité du monde extérieur pour que non seulement la sécurité s'éprouve plus profondément comme telle, cela dans l'économie de la jouissance, mais aussi pour qu'elle se sente à chaque instant justifiée de se choisir comme telle, cela dans l'économie morale du salut. Il faut que fleurissent autour de la zone préservée les signes du destin, de la passion, de la fatalité, pour que cette quotidienneté récupère la grandeur, le sublime dont elle est justement le revers. La fatalité est ainsi partout suggérée, signifiée, pour que la banalité vienne s'y repaître et y trouver grâce. L'extraordinaire rentabilité des accidents automobiles sur les ondes, dans la presse, dans le discours individuel et national, est là pour le prouver. C'est le plus bel avatar de la fatalité quotidienne, et s'il est exploité avec une telle passion, c'est qu'il remplit une fonction collective essentielle. La litanie sur la mort automobile n'est d'ailleurs concurrencée que par la litanie des prévisions météorologiques. C'est que les deux sont un couple mythique, l'obsession du soleil et la litanie de la mort sont inséparables. La quotidienneté offre ainsi ce curieux mélange de justifications euphoriques par le standing et la passivité et de délectations moroses de victimes possibles du destin. Le tout compose une mentalité, ou plutôt une sentimentalité spécifique. La société de consommation se veut comme une Jérusalem encerclée, riche et menacée. C'est là son idéologie.